En flux libre, l'émission. Hello world, bienvenue, vous écoutez En flux libre l'émission pour son sixième épisode après deux bons mois d'absence. Et on vous avait déjà plus ou moins expliqué pourquoi nous nous sommes absentés aussi longtemps. On avait besoin un peu de travailler, retravailler un peu le concept et surtout une bonne petite surprise qui arrive dans les prochaines semaines. Mais on ne vous en dit pas plus, vous le découvrirez à la date qu'il faudra. À mes côtés pour animer l'émission, comme toujours, c'est mon cher Alain. Salut Alain.
Salut Ghislain, salut à tous.
Comment ça va?
Ça va bien et toi?
Ouais, ça va, ouais. Content de revenir, c'est un peu la rentrée des classes.
Bah ouais,
tu vois.
Ouais, non, ça fait plaisir, ouais, c'est vrai.
C'est un peu la petite rentrée des classes.
J'attendais ça avec impatience.
Oui, pareil. Ça me manquait un peu de pouvoir causer du pingouin. D'ailleurs, on a un magnifique pingouin qui nous sert de mascotte. C'est absolument génial.
Il surveille, ouais. Et puis il va voir si on dit pas trop de bêtises.
Ouais.
Et...
C'est toi qui dis les bêtises, tu sais. C'est pas moi.
Oui, d'accord.
C'est pas moi. Donc, dans ce podcast, on parlera toujours de libre, hein, vous inquiétez pas. Mais allez, on va dire qu'on a voulu un peu accentuer le côté libertés informatiques, parce que vous n'êtes pas sans savoir que ces dernières semaines ont été assez mouvementées, assez chargées. Hein, l'actualité se chargera de vous rappeler pourquoi. Et donc voilà, on vous causera toujours de GNU Linux, rassurez-vous, mais surtout ayez à l'esprit que on aura toujours un petit mot pour ces fameuses libertés informatiques qui sont en train d'être violées. Sans plus attendre, le sommaire de cet épisode. EFL, sixième du nom, avec nos habituelles news. Kubuntu, abandonné par Canonical. Une tablette full KDE, la Spark. Tribbler qui passe en version 5.5. La part du logiciel libre en France. Un photographe qui ose s'attaquer à Adopi. Oulala, il va avoir des problèmes. Il va avoir beaucoup de problèmes.
Il va avoir des problèmes.
Oui. C'est comme dans Omar et Fred.
Exactement.
Tu fais Fred, je fais Omar.
Non.
Je suis pas aussi costaud que.
C'est Omar. Ça qui joue. Ouais.
D'accord. Salaud. Le Android et Android, oui, qui revient dans les sources du kernel. Un gros focus dans cette émission avec ACTA, mais ça, personne ne peut y échapper. Cet accord ratifié le mois dernier qui a fait beaucoup parler de lui. Dans la dégeek, on se fera un point réseau avec le DNS. Et enfin, dans notre besace de la sélection en flux libre, il y aura plein de petites choses. La conférence de Jérémy Zimmermann, cofondateur et porte-parole de la Quadrature du Net. Conférence qui s'est déroulée voilà, à Rennes. C'était quand? C'était la semaine dernière.
C'était jeudi 2 février.
La semaine d'avant. Oui. Ouais, c'était la semaine d'avant. Et un point sur les manifs d'hier concernant justement ACTA. Allez, c'est parti. EFL, sixième épisode, l'émission du libre des libertés informatiques. Go générique.
C'est parti.
En flux libre. L'émission du logiciel libre et des libertés informatiques. Présentée par Alain Devarieux et Ghislain Larose.
Fourni. Bah, c'est vrai qu'en deux mois, on a peut-être loupé deux, trois petites choses.
On a loupé des trucs, ouais. Donc on a décidé de prendre les news qui étaient relativement récentes.
Voilà.
On
n'allait
quand même pas revenir deux mois en arrière.
Surtout que surtout qu'ils peuvent. Ah, si si, on aurait pu faire un. On a même pas, on va même pas pouvoir parler de méga upload, t'imagines toi?
On en a assez parlé comme ouais, ça sur internet, je pense.
Pense que je m'explique. Enfin, on s'expliquera pourquoi on n'en parle pas. Parce que c'est, on va dire voilà, ce n'est pas trop, ce ne sont pas
ceci
trop nos.
Ceci dit, on pourra aborder le sujet oui, dans le bon. Focus sur Actor rapidement.
Ouais. Voilà. Oui. Voilà, exactement. Kaino Nicole ne supportera plus Kubuntu. Alors Kubuntu, c'était Ubuntu, mais en version KDE, donc le fameux desktop environment KDE. Donc le support a été abandonné, en tout cas l'annonce a été faite la semaine dernière pour l'abandon du support, tout simplement parce que ça ne marchait pas. Il faut savoir que Kaino Nicole, pour toutes les variantes donc d'Ubuntu, donc Kubuntu, Xubuntu et Ubuntu, je crois qu'il y a même l'Ubuntu maintenant qui est supporté officiellement.
Oui, aussi, ouais.
Kubuntu était supporté par Kaino Nicole et les développeurs payaient donc ces gens-là. En tout cas, une personne en particulier hein, qui s'appelle Jonathan Riddell. Et donc ce développeur a annoncé justement que Kubuntu ne serait plus supporté par Kaino Nicole, ou en tout cas que ce projet-là ne recevrait plus de l'argent nécessaire pour pouvoir assurer le développement. Donc Kubuntu a 7 ans, je crois qu'il est né juste après le démarrage d'Ubuntu, hein, qui date déjà depuis 2003 ou 2004.
Entre... Oui, quelque chose comme ouais. ça. Ouais.
Ubuntu, c'est de 2003 ou 2004. Et ce que lui essaye de dire, c'est que voilà, il n'y avait plus assez de monde pour pouvoir tester. C'était un travail, il le dit lui-même, hein, c'était un travail long, très lent, sans remerciement. Et il avait du mal à trouver des volontaires. Donc le développeur s'est tout simplement posé la question si le monde avait besoin de Kubuntu, et apparemment ce n'était pas trop le cas.
Ça signe pas l'arrêt de mort de
Kubuntu. Non,
de,
parce que les dépôts sont actifs, et d'ailleurs la Kubuntu 12.04 qui sortira en avril sera officiellement supporté par Canonical, mais ça sera fini. En revanche, j'ai dit une connerie tout à l'heure, Xubuntu et Ubuntu et l'Ubuntu sont des distributions communautaires, donc supportées par Canonical, mais les développeurs ne sont pas payés par Canonical,
par
c'est
contre,
juste Ubuntu.
Les dépôts sont hébergés par Canonical.
Moi, je pense que c'est un moindre mal pour une seule chose, c'est que il y a tellement de variantes d'Ubuntu. Moi, j'ai jamais compris pourquoi il y avait une lettre déjà devant pour définir un bureau en particulier, alors que une distribution comme Fedora, OpenSUSE ou autre, bon voilà, on a plusieurs bureaux mais on n'a pas 36 000 versions, donc je pense que, est-ce que c'est un moindre mal pour revenir parfois sur Kubuntu pour voir qu'est-ce qu'ils incluent comme changement, notamment lors de la dernière grosse release, la 4.8. Bon, est-ce que c'était vraiment nécessaire d'avoir cette distribution à côté d'Ubuntu? Moi, je pense que c'était plus à l'époque pour contrecarrer le fait qu'il y avait GNOME sur la Ubuntu normale.
Ouais,
et comme on sait que KDE et GNOME sont quand même les deux plus grosses desktop environment du monde de GNU Linux, je pense que c'était pour faire ça. Maintenant, est-ce qu'aujourd'hui ça a de l'intérêt, en sachant qu'Ubuntu est complètement passé à côté de GNOME et qu'ils ont eux-mêmes même fait leur propre desktop environment? Voilà.
Bonne remarque.
Je pense que c'est un moindre mal, et que ça va peut-être que justement les gens, comme ça sera du communautaire, ils vont revenir dessus naturellement. Bon, voilà.
Peut-être c'est plus de développeurs qui vont
s'investir voilà,
ouais. là-dedans.
Ouais, vu que bon bah le fait que Kubuntu était quand même une distribution KDE, le problème c'est qu'elle était fortement modifiée par Kaino Nicole. C'était pas une distribution out of box, c'est-à-dire voilà, je prends une distribution comme Arch Linux, où quand on installe un KDE, Arch Linux ne modifie pas les paquets de KDE. Bon bah voilà, Ubuntu l'a modifié un sacré paquet de paquets pour Kubuntu. Et ça ne marchait pas totalement en plus. Donc voilà, Kaino Nicole qui ne supportera plus Kubuntu. Ça nous fera financièrement, on précise. Alors Alain, la prochaine news, un photographe accuse Adopi. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Il s'est attaqué à Adopi, mais il est malade.
Non, il n'a pas attaqué Adopi.
Ah oui, mais il est malade quand même.
Non, ça serait un petit peu... cavalier de s'attaquer à Adopi comme ça quand même. Non, c'est un photographe professionnel qui reproche à Adopi d'utiliser des photographies sans en avoir les droits. Donc, c'est-à-dire qu'ils sont censés normalement mettre des crédits photos quand ils utilisent des photos.
Et sur quoi ? Sur leur site internet ?
Sur leur site internet, ouais, tout à fait. Sur leur page de sur leur support de communication, exactement. Sur internet, ouais. Et donc Adopi prend les photos sur notamment des sites de stockage d'images étrangers à bas prix, utilise ces images sans mettre les crédits vers donc ils sont censés mettre les crédits vers l'éditeur des photos ainsi que mettre le nom du photographe, ce qu'ils ne font pas. Donc bah, Adopi, c'est un petit peu, enfin c'est pas la première fois qu'ils sont pris comme ça la main dans le sac à violer la propriété intellectuelle. Donc bah, Adopi, c'est un petit peu deux poids deux mesures. C'est sûr que ben voilà, la musique ça rapporte beaucoup d'argent, donc ben, là on met les moyens pour lutter contre le piratage, la piraterie et les tip-jackers en tout genre. Pour les photographes, bon, ça rapporte un petit peu moins de sous, ils ont un lobby beaucoup moins puissant que le lobby de la culture musicale, donc bah ben, voilà, forcément on fait un petit peu moins attention. Voilà, c'était un petit peu notre point Adopi du jour.
On l'a piqué à Ch'tinux.
On n'en fera pas à chaque fois.
Non, parce que j'en vois pas trop l'intérêt.
Voilà, voilà. Et puis bon, c'est Adopi.
C'est Adopi, je pense. Ça se passe
de commentaires.
Ça se passe de commentaires. Et moi, j'ai une souris qui est en train de devenir complètement folle.
Ah, c'est ballot, ça.
Ah, c'est ballot. Donc, je reprends de mon trackpad.
Reboot.
Non. On a l'émission qui est en train d'être enregistrée. On va peut-être pas rebooter.
La news suivante, ouais. Ghislain.
Vas-y.
Et parlons encore de KDE, une fois de plus.
Ah oui, dis donc, nous ne sommes pas sponsorisés par KDE. Dis donc, chaque émission, on est sponsorisé par quelqu'un. J'ai remarqué la dernière émission, c'était quand même assez fort. Hein. Le gouvernement.
Oui, c'est vrai. Et les fois d'avant, c'était Linux Mint.
Oui, c'est vrai. Faut savoir qu'on touche beaucoup. Spark serait la première tablette Linux à prix modique. Ça serait un prix de $270 et un écran 7 pouces. Oui, c'est la Spark. Non, ce n'est pas une Chevrolet. C'est oui, puisqu'il y a en fait une voiture qui a exactement le même nom.
Je ne savais pas.
Si. Et l'idée est de développer en fait une tablette sous GNU Linux en partenariat avec la communauté de développeurs de KDE et qui utilisera en fait Plasma Active One. J'en avais déjà parlé, il me semble, il y a 4 ou 5 émissions de ça. Il y a 4 émissions parce que la 5e c'était la première. J'espère que vous m'avez compris. Plasma Active One qui est en fait l'interface tactile, l'interface pour tablette tactile qui a été développée par KDE. Et cette interface donc permet déjà de pouvoir utiliser KDE et donc repose bien évidemment sur Linux. Donc voilà, après voilà, boîtier bas de gamme, écran tactile capricieux. Donc je sais pas qu'est-ce que ça va donner. Bah en tout cas bon. Je pense pas que ça fera le nouvel iPad, je pense pas que ça pourra même concurrencer des produits Android, parce que les produits Android sont quand même quelque chose d'assez recherché. Donc, toujours est-il qu'au niveau du matériel, on a un processeur ARM de 1 giga, le Wi-Fi, une sortie HDMI, deux ports mini USB et un slot pour carte SD et une mémoire interne de 4 giga. Donc, je pense que ça a tout l'air d'être des tablettes. Une bonne tablette en tout cas, mais le problème c'est que ça a l'air d'être un peu pourri au niveau du packaging. J'ai l'impression que c'est un peu...
D'accord, donc au niveau software, à l'intérieur, c'est pas mal.
Ouais.
Et puis au niveau du contenant, c'est pas ça.
Non, c'est pas ça du tout, à part, je te dis, le niveau technique. Niveau technique, ça va, il n'y a pas à se plaindre. Quoique processeur ARM de 1 giga, après on va pas demander la lune à $270 la tablette.
Hein. Non, c'est sûr.
Faut pas exagérer, ça fait quelques 200 euros en France, faut pas exagérer non plus quoi. Donc l'intégralité des profits de la vente sera entièrement investie par le développeur, par les développeurs de KDE Plasma Active One. Donc voilà, bon, on sait pas trop, ça arrivera je pense courant cette année sur le marché. À voir ce que ça peut donner, mais bon, si déjà on voit que l'écran est merdique, Ouais. Je suis pas sûr que ça rencontre le succès escompté. Mon cher Alain, la prochaine news, Tribbler version 5.5. Mais qu'est-ce ?
Qu'est-ce Tribbler ? Tribbler se repose sur le réseau BitTorrent. Donc c'est un client, c'est une sorte de client BitTorrent. C'est une nouvelle manière d'appréhender le BitTorrent. Alors la version 5.5 est déjà sortie, mais c'est vrai que Tribbler existe depuis pas mal de temps déjà. Le seul truc, c'est que c'était resté un petit peu dans un écosystème un petit peu fermé avec très peu d'utilisateurs, parce que c'était toujours plus ou moins en recherche. Donc Tribbler est développé par des chercheurs hollandais. De l'université donc de Delft. L'avantage en fait par rapport au BitTorrent classique qui repose sur des trackers et des sites de téléchargement de fichiers torrent, avec Tribbler c'est du full peer-to-peer. Donc on se connecte chez d'autres utilisateurs de Tribbler pour récupérer ces torrents et pour télécharger ces fichiers. Comme explique un des chercheurs, la seule façon de couper les téléchargements avec Tribbler, ce serait tout simplement de couper Internet. Au moins comme ça, ça a le mérite d'être clair. On peut télécharger du coup cette nouvelle version-là de Tribbler sur le site de Tribbler, qu'on mettra en lien lors de la publication du podcast sur le site d'Enflux Libre. Je pense m'empresser de tester ça pour télécharger des ISO Linux. Et puis
légal.
Oui. Ou alors des films qui sont tombés dans le domaine public, par exemple. Il y en a plein. J'en ai récupéré récemment d'ailleurs des trucs pas mal, des films muets, assez sympas. Enfin bref, voilà.
Tu m'as dit film muet, moi je me dis film en noir et blanc. Je pensais que c'était déjà tombé dans le domaine public.
Ah, ça aurait pu, ouais. On pourrait jouer là-dessus, hein.
C'est pas faux. Donc en gros, voilà, il n'y a pas de serveur.
Il n'y a aucun serveur. Full peer-to-peer.
Parce qu'avant il y avait full peer-to-peer. Avant il y avait peer-to-peer. Maintenant il y a full peer-to-peer.
Full peer-to-peer. Il y a rien du tout de centralisé.
D'accord. Bon.
La suite, Ghislain, oui. Avec un petit peu d'Android et un petit peu de kernel.
Un petit peu d'Android, pourquoi on n'en a pas parlé assez? Si, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai prononcé le mot d'Android. Oui. Alors Android était, alors à son lancement Android était inclus dans les sources du noyau Linux, avant la 2.6.33 qui date de 2010. Elle a été supprimée juste après et on a le bonheur enfin de pouvoir repartir sur de bonnes bases avec Android qui sera remis dans le noyau version 3.3 du noyau. D'ailleurs, on en est à la RC1 ou 2, j'ai vu passer un post il y a quelques jours de ça. Oui. Ils ont fait un merge dessus, donc la 3.3 devrait pas tarder à arriver. Toujours est-il que, alors c'est Greg Krauhartmann qui l'a annoncé. Alors Greg Krauhartmann, il a fait plaisir à tout le monde parce qu'il était en fait développeur dans la distribution SUSE, donc il donne OpenSUSE dans la version communautaire. Et il a rejoint la Linux Foundation. Bonne nouvelle parce que grâce à lui, on va pouvoir avoir une merge ou fusion, selon si vous êtes anglophone ou français, fusion du noyau Android avec celui de Linux. On rappelle à tout le monde qu'Android, ce n'est que du Linux à la base. Donc selon lui, le code est presque prêt. La version 3.3 du noyau nous permettra de démarrer sur le user space Android sans aucune modification, mais avec une mauvaise gestion d'énergie. Et grâce à la version du noyau 3.4, on devra avoir des optimisations nécessaires pour la gestion d'énergie, ainsi que d'autres petits éléments manquants qui n'ont pas été intégrés. Donc Android retrouve petit à petit ses racines. Après, à voir comment se comporte Google, parce que Google a une fâcheuse tendance à revenir en arrière, mais ça, on y reviendra dans les prochaines semaines.
C'est-à-dire qu'il faudra voir si le code continue d'être maintenu dans les prochaines versions du kernel, parce que, sinon Linus Torvald, il va pas être content, et puis il va enlever tout ce code-là du kernel, comme il l'a déjà fait avec Hyper-V, par exemple, pour Windows.
Il n'y a plus d'Hyper-V dans Windows.
C'est revenu, ça a été réintégré, mais ils ont dû l'enlever parce qu'il n'y avait pas de maintenance sur le code.
Je crois que la maintenance avait été reprise depuis la version 3 ou la version 2.6.3.
Ouais, ça a été repris, ouais, mais ouais. À un moment, ils ont dû l'enlever.
Parce que c'était devenu limite un gros contributeur derrière IBM, je sais plus quoi, du noyau. Bon, à suivre alors. mon cher Alain, la dernière news. C'est toujours beaucoup de mal à dire ce maudit mot. Bref, 6% pour le logiciel libre. Mais pourquoi je vois ça dans mon pad? 6% pour le logiciel
6%,
libre. Qu'est-ce que c'est?
Alors, ce n'est pas 6% des systèmes d'exploitation sur les ordinateurs de bureau. Hein.
Non,
sur les ordinateurs portables.
Le logiciel libre ou
c'est le logiciel libre.
Ah oui, le logiciel libre.
Et c'est pas, là, on ne parle pas des ordinateurs des personnel computers. Mmh. On parle de la conquête, entre guillemets, du logiciel libre dans les entreprises en France. Et donc, on arrive à 6% d'utilisation de logiciels libres dans les entreprises. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle puisque ça monte petit à petit. Selon un cabinet qui s'appelle Pierre Audouin Consultant, les entreprises manifestent un intérêt croissant pour l'open source et selon eux, on devrait arriver à 9 ou 10% d'utilisation de logiciels libres dans les entreprises France en 2015. Le seul souci par rapport à ça, c'est que l'utilisation des logiciels libres dans les entreprises fait perdre un petit peu de... Alors, pas vraiment les logiciels libres, les logiciels open source plutôt. Ça fait perdre un petit peu de... toute la communauté qu'il peut y avoir autour des logiciels libres, puisque les entreprises en général utilisent les logiciels libres en interne sans jamais participer, même quand elles modifient du code selon leurs besoins.
C'est ce qui me fait dire que d'ailleurs la plupart des entreprises en France n'ont rien compris au logiciel libre pour cet aspect-là, en tout cas.
Ah non, cet aspect-là, elles n'en ont rien à faire, hein, clairement.
Voilà, c'est vraiment clairement mercantile. Hein, c'est
mais ceci dit, c'est vrai que c'est super pratique. pour elles, en tout cas, puisque ça leur fait des logiciels à pas cher, avec un petit peu de maintenance. Qu'est-ce que c'est que ça?
Ça surprend.
Oui, ça surprend, oui.
C'est la musique qui
s'est lancée. C'est la musique. Ouais. Pourquoi on a la musique qui se lance? Donc oui, bah comme tu dis, ouais, elles ont pas compris grand chose et ça leur fait donc comme je disais pas mal de logiciels sans avoir besoin de payer de licence. Et puis donc elles procèdent à leurs modifications en interne sans jamais redistribuer ces modifications là. Mais ceci dit, je pense quand même que c'est plutôt une bonne nouvelle dans l'ensemble, puisque si on arrive à 10% de part de marché, on aura une meilleure visibilité du logiciel libre en général. Donc ça peut que être positif.
Mais je pense que et pour terminer là-dessus, je pense que les derniers événements de ces derniers mois ont fait réfléchir un certain nombre de personnes, je pense. Je le vois juste, une petite anecdote, je le vois juste dans ma formation. Le nombre de personnes qui a pu demander d'installer ne serait-ce qu'un GNU Linux sur leur ordinateur de travail personnel, on est 12, il n'y en avait pas un seul qui voulait le faire. J'ai été assailli la semaine dernière. J'ai eu beaucoup de travail.
C'est bien, ça, bonne nouvelle.
Donc, CQFD. Je n'irai pas plus loin et je n'entrerai pas dans le débat, mais je pense que les gens réfléchissent un peu. Je pense. Et c'est ça le plus important.
Et donc, par rapport toujours à cette news, je tiens juste à rajouter que selon Red Hat et selon donc le cabinet Pierre Audouin Consultant, la France est un des marchés phares du logiciel libre dans le monde, avec de nombreuses compétences de haut niveau qui ont une influence non négligeable dans les communautés. Voilà.
Et c'est fin de citation. C'est étonnant parce qu'on n'a plus de distribution Linux 100% française. Depuis Mandriva a disparu de nos écrans radars. On ne l'avait même pas signalé, ça.
Si, on l'avait signalé.
La dernière émission ?
Ouais,
d'accord. Okay.
Je me rappelle.
Autant pour moi. Voilà, c'était la fin de nos petites news. Elles sont assez hétéroclites et disons qu'elles sont pas très très représentatives du temps passé. Mais en tout cas, vous êtes au courant de certaines petites choses. On va faire un peu de musique.
Un petit peu de musique.
Un peu de musique qui est partie un peu en avance.
Oui.
Mais personne l'entend.
Comme quoi, on est encore à la bourre, c'est ça?
Non, on est à 26 minutes, c'est parfait.
Oh, bien.
Eh, attends, et tous les jingles sont inclus, hein. Moi, j'ai fait mon boulot.
Ok,
hein,
chef, ok, chef.
Mon cher Alain. C'est alors le titre, si j'arrive à en même temps automatiser la tâche et parce qu'on a à nouveau,
alors,
voilà,
pour c'est Sebapola qui s'appelle, oui, le monsieur. Le morceau s'appelle Un peu mode et très chic. C'est assez rigolo. Moi, j'écoutais ça tout à l'heure.
Ça change en fait de l'émission. On a plutôt, enfin, on passe pas mal de temps à chercher des titres électroniques, de la musique.
Ouais, voilà, j'ai voulu changer un petit peu.
Voilà, on change complètement le registre.
Donc, la licence, c'est du CC by SANC.
Oula,
et donc voilà.
UNC, oui. Je sens que mes collègues de Tango Studio vont pas être du tout contents. C'est pas grave, je m'expliquerai avec eux. C'est parti, c'est Bapola, un peu mode et très chic.
Musique.
Sur En Flux Libre, épisode 6.
La coiffeuse a raté ma coupe de cheveux. Et d'un coup tout va mal et rien ne va mieux. Est-ce que la tête de nœud qu'elle m'a fait au sabot de mort est moins déprimée avec l'arrêt sur le côté? Oh, j'ai l'air d'un labrador qui aurait dormi dehors sous une pluie de gel et de lac et avec un vent très fort. Oh, selon elle, c'est classique, un peu mode et très chic. Ça aurait été un peu trop de lui planter ses ciseaux dans le dos. La papa la papa la la, la papa la papa la la, la papa la papa la la la. Je paye et je sors, je voudrais déjà être mort. Je remonte la rue piétonne en priant pour qu'il y ait personne. Le reflet impartial de la vitrine d'à côté me rappelle que j'ai demandé un léger dégradé. Puis la tête de veau posée sur l'étal du boucher a l'air de compatir. Elle voit ce que je veux dire. Oh, j'ai l'air d'un Playmobil en un peu moins viril, comme un môme décoriste tendance séminariste. Oh, selon elle, c'est classique, un peu mode et très chic. Ça aurait été un peu trop de lui planter ses ciseaux dans le dos. La tap de la pap de la la, la tap de la pap de la la, la tap de la pap de la la. Et la papa bora papa la la, et le papa bora papa la la. Que j'ai fait tout ça pour être propre et beau. Putain, qu'est-ce qu'on ferait pas pour trouver du boulot? J'ai l'air franc et honnête avec ça sur la tête. Oh, en tout cas, je suis pathétique comme un jeune cat dynamique. Oh, mais le pire, ce sera ce soir quand je vais voir les copains. La pitié, ils connaissent pas, non, ils sont pires que des chiens. Et j'ai l'air d'un labrador qui aurait dormi dehors sous une pluie de gel et de lac et avec un vent très fort. Oh, selon elle, c'était classique ou un peu mode, très très chic. Ça aurait été un peu trop de lui planter ses ciseaux dans le dos. Rap-ta-pou-rap-ta-pou-ra-ra, rap-ta-pou-rap-ta-pou-ra, rap-ta-pou-rap-ta-pou-ra-ra-ra.
De rien, c'est pas Paula.
C'est fini, hein.
Oui, c'est fini. Faudrait peut-être,
voilà,
il faudrait peut-être penser à y aller maintenant. C'est bien, j'adore ces chansons avec de la transition en même temps.
C'est pas mal.
C'est pas mal.
Moi, j'aime bien
c'était
ce morceau.
C'était Sebapola, un peu mode et très chic, dans En Flux Libre, sixième épisode. Et cette petite respiration va nous permettre d'aller gentiment vers le focus, parce que là, attention, il y a un très gros morceau. Le focus qui aujourd'hui s'intéresse à ACTA.
Pour commencer, gros sujet.
Gros sujet, oui. J'éclaircis ma voix. Vous. Pour commencer, je vais simplement citer la phrase de nos amis de la quadrature du net. ACTA est une offensive de plus contre le partage de la culture sur Internet. Voilà, je vous ai planté le décor. Et une fois de plus, je ne peux pas vous cacher que tout cela s'est fait derrière notre dos. La propriété intellectuelle, les droits de possession sont des sujets dont le débat en ce moment et surtout ces dernières semaines sont très intenses. Donc entre piratage, partage de fichiers, légal, illégal, licence, etc., Adopi, hein, sans aller plus loin. Et ACTA marque une bonne fois pour toute la fin de toute cette joyeuse bande de drill et finalement est un peu va devenir un peu ce qu'on appellerait trivialement un gendarme ou un policier. Enfin, même pire qu'un gendarme et un policier. ACTA a été négocié par 39 pays, dont les 27 membres de l'Union européenne, le Japon et les États-Unis. C'est un accord qui a été initié entre 2006 et 2007, même si les conversations n'ont réellement commencé qu'en 2008. Le texte final d'ACTA a été ratifié fin janvier, c'était le 26 janvier d'ailleurs, par le comité exécutif de l'Union européenne. Mais ce jour-là, à la surprise de tout le monde, le rapporteur de la commission Kader Arif a démissionné, dénonçant selon lui une mascarade. D'ailleurs, voici ce qu'il a dénoncé dans un communiqué, j'ouvre mes guillemets. Comme chacun le sait, l'accord ACTA pose problème, qu'il s'agisse de son impact sur les libertés civiles, des responsabilités qu'il fait peser sur les fournisseurs d'accès à Internet, les fameux FAI, des conséquences sur la fabrication de médicaments génériques ou du peu de protection qu'il offre à nos indications géographiques. Cet accord peut avoir des conséquences majeures sur la vie de nos concitoyens, et pourtant, tout est fait pour que le Parlement européen n'ait pas voix au chapitre. Ainsi aujourd'hui, en remettant ce rapport dont j'avais la charge, je souhaite envoyer un signal fort et alerter l'opinion publique sur cette situation inacceptable. Je ne participerai pas à cette mascarade. ACTA dérange et pour cause. Concrètement, cet accord menace à très court terme toute liberté d'expression, puisqu'il définira un nouveau cadre juridique amenant à un contrôle des communications et du commerce dans son ensemble et des échanges qui vont même au-delà de l'internet, puisque j'ai parlé tout à l'heure de médicaments. Des sanctions pénales peuvent être appliquées envers les acteurs de l'internet, les forçant à surveiller plus logiquement. Puis logiquement à censurer les communications en ligne. Véritable menace d'insécurité pour les entreprises de l'internet, elle menace également des domaines plus sensibles comme l'accès aux médicaments génériques. Je m'arrête 5 secondes sur ces médicaments. Ces médicaments, dont certaines des molécules sont tombées dans le domaine public, sont appelés, par exemple en France, des médicaments génériques. Mmh, voilà, ce sont les fameux médicaments qui permettent de ne pas aggraver le trou de la sécurité sociale. Bon, jusqu'à là, rien d'anormal.
Qui sont développés à plus qui sont produits, pardon, à plus faible coût par
des laboratoires, tiers, voilà. Hein, voilà. Sans nom dessus, parce que bon, voilà, quand on paye un médicament, ce qu'on paye, c'est évidemment la molécule, mais aussi en petite partie la renommée du médicament sur son nom.
Et la R&D, toute la recherche qui est faite pour trouver ce médicament par les grands groupes pharmaceutiques.
Voilà, exactement. Et donc, le problème de ces médicaments, c'est qu'effectivement, ils ont le droit de citer dans certains pays. Donc, ils ont un cadre juridique, par exemple en France, mais dans d'autres pays, ils n'en ont pas. Le problème, c'est que ces médicaments-là, et la plupart, sont fabriqués ailleurs, dans des pays, et ensuite, ils sont amenés et acheminés, par exemple, en France. Et donc, ils passent par des pays en transit. Le problème, c'est que ces pays-là, qui n'ont pas défini un cadre juridique sur ces médicaments, ils peuvent très bien bloquer ces médicaments génériques et les faire passer pour contrefaçon. Et donc ACTA aura la force de pouvoir les bloquer.
C'est pas du fantasme quand on dit ça.
Ah non, c'est
puisque il y a déjà eu un cas donc aux Pays-Bas de médicaments qui ont été bloqués pendant plus d'un mois, je crois, au port.
Oui, dans le port d'Amsterdam.
Parce que voilà, ces médicaments n'avaient pas théoriquement le droit d'exister aux Pays-Bas, mais ils étaient juste en transit, ils étaient vendus de je sais pas quel était le pays source, ni quel était le pays d'arrivée, mais ils étaient juste en transit par les Pays-Bas, ils sont restés bloqués là-bas pendant un mois. Des médicaments génériques contre le sida.
Tout à fait, ouais, des médicaments génériques contre le sida, et donc vous doutez bien que la conséquence immédiate, c'est que ces médicaments ne pourront plus aller, ou alors très peu, ou alors ils seront filtrés dans les pays du tiers-monde, tout simplement. Voilà, c'est C'est ni plus ni moins qu'un énième contrôle sur tout ce qu'on peut ne pas importer sur les pays du tiers-monde. Je pense aux pays d'Afrique, évidemment, mais il y en a d'autres. Et donc, c'est une réalité. C'est pour ça que c'est urgent et qu'il faut s'alarmer. Le pire dans tout cela, c'est que c'est aux intermédiaires techniques qu'incombe la responsabilité de contrôler tout ça. Je m'explique.
Ils sont pénalement responsables.
Voilà. Ceux-ci se nomment les FAI, j'en ai parlé tout de suite. Orange, SFR, Free et tous les FAI qu'on peut connaître en France, qu'ils soient bons ou mauvais, pourraient contrôler directement ce que vous faites sur Internet. En gros, vous regardez. Et comme ils ont votre identité, forcément, ils peuvent fournir à l'organisme gestionnant donc ce fameux accord ACTA, votre identité pour légiférer dessus. Donc, c'est-à-dire vous envoyer en prison si jamais, par exemple, j'en ai encore lu un exemple ce matin, imaginons vous avez envie de faire un petit extrait sonore. Imaginons aujourd'hui, nous, on va prendre notre exemple à nous. On a envie de passer un petit extrait sonore d'un journal télévisé ou d'une radio, de ceci ou de cela. Si jamais ce podcast est écouté par des gens ou cet organisme qui est capable de légiférer avec ACTA, on peut très bien aller en prison du jour au lendemain, ou en tout cas récolter une très forte amende.
Tout à fait.
Par exemple, sur Wikipédia, celui qui a envie de faire une fiche sur n'importe quelle personnalité et que, je sais pas, la personnalité se plaint, hop, ACTA pourra dire « Ah mais écoutez, vous allez en prison parce que cette phrase-là, c'est pas vous, il n'y avait pas de droit dessus, voilà. » Donc ça remet complètement à plat tout ce qui est licence, donc que ça soit propriété intellectuelle, licence de musique, licence de... Mais tout en fait. Il n'y a même plus de cadre à ça, ACTA, chapeau, tout. Voilà, il pourra légiférer sur tout Internet.
Alors, si je peux rajouter un exemple, si par exemple vous voulez envoyer un email à un ami, vous avez lu un article très intéressant du monde.fr,
par exemple,
vous voulez envoyer un email un ami à vous pour lui parler de cet article parce que vous pensez que ça devrait l'intéresser. Vous mettez le lien vers l'article et puis vous mettez aussi une citation de l'article dans votre email. L'email sera automatiquement scanné par votre fournisseur d'accès Internet, hein, puisque tous les paquets seront obligatoirement scannés par DPI. Eh bien, alors ce qui se passe, c'est que c'est pas Le Monde, par exemple, qui va porter plainte contre vous directement. C'est le fournisseur d'accès Internet verra qu'il y a eu violation de la propriété intellectuelle dans l'email. Ils vont donc envoyer automatiquement, sans même qu'il y ait de demande externe, ils vont envoyer automatiquement vos coordonnées, adresse email, adresse postale
ouais.
Au monde.fr ou au monde ou je ne sais pas quel groupe qui s'occupe du monde.
C'est Free d'ailleurs.
Oui,
en partie, ouais.
Et là, ce sont eux qui vont décider s'ils portent plainte ou pas contre vous. Donc en gros, c'est la surveillance généralisée pour tout le monde sur Internet.
Voilà, tout simplement. Les FAI deviendront des gendarmes de l'Internet, ni plus ni moins. Un cadre contrôlé, une navigation loin de la neutralité de l'Internet prônée par notre communauté, la communauté du libre, et surtout une peur de tous ces gens qui veulent à tout prix arrêter finalement l'hémorragie des profits des diverses industries culturelles qui ont amassé des 1000 et des 100 pendant des années et des années. Même si le modèle ne marche plus, ACTA semble l'offensive dont personne aujourd'hui ne soupçonnait qu'il pouvait exister un jour ou qu'il pouvait naître un jour. Le problème, c'est que, je l'ai dit en introduction, 39 pays l'ont ratifié, mais il y a une lueur d'espoir, c'est que certains pays de l'Union Européenne commencent en fait à réfléchir. Alors ça, c'est super bizarre. Ils ratifient le texte, ouais. Et puis derrière, ils se disent « Oh, mais on a fait peut-être une connerie. »
Exactement. Parce que je sais plus de quel pays elle est, la nana qui est allée au nom de son pays, elle est allée signer l'accord au Japon. Et puis, peu de temps après, elle arrive, et puis sur son blog, elle met « Oh, en fait... » j'ai pas lu le texte, peut-être que j'ai fait une bêtise,
je crois que c'est pas l'Allemagne, mais c'est un autre pays.
Non, c'est un pays d'Europe de l'Est.
La Lettonie.
Peut-être bien la Lettonie, ouais.
Donc, il y a certains pays de l'Union Européenne qui commencent à rejeter eux-mêmes donc ce qu'ils ont finalement ratifié. Donc, il y a eu la Lettonie, l'Allemagne qui danse le cul entre deux chaises. Qu'est-ce qui se passe en France ? Alors, en France, sans rentrer dans les détails, surtout en ce moment, parce qu'on va se faire on va se faire allumer par le CSA. Le Parti Socialiste appelle au boycott. Je vous laisse imaginer quel autre parti en appelle aussi au boycott. Toujours est-il que ACTA est une menace. C'est dangereux. Il faut absolument essayer de, en tout cas, voilà, faire un combat. Parce que je pense qu'aujourd'hui, enfin demain, si vous voulez écouter tranquillement de la musique en FLAC, par exemple, dans votre baladeur, parce que ACTA prévoit aussi, alors ça c'est un autre point, je l'ai lu très rapidement, mais ACTA prévoit aussi, par exemple, de pouvoir installer sur votre ordinateur un logiciel réglementé, cadré, où vous ne pourrez, par exemple, extraire votre musique sur un seul format, lisible dans un seul baladeur, le retour du DRM, quoi, finalement. Mmh. Par exemple, donc c'est dès aujourd'hui qu'il faut absolument trouver le moyen de le faire de manière libre. Voilà. Et c'est pour ça que on s'engage dans le combat de manière factuelle pour le moment, c'est-à-dire qu'on, pour l'instant, on en parle. Il y a aujourd'hui, par exemple, 3 associations. On en parlera d'ailleurs dans la sélection en flux libre. La Quadrature du Net, l'April et Framasoft qui commence à combattre l'ACTA, même si effectivement bien avant la ratification du texte on a commencé à avoir quelques prémices par-ci par-là, hein, des vidéos qui étaient publiées, de l'infographie. Toujours est-il que bon, on en reparlera dans la sélection. Effectivement il y a eu pas mal de manifestations samedi 11 février contre justement l'ACTA
partout, voilà. En Europe
partout en Europe, voilà. Hein, d'ailleurs dans tous les pays européens.
Ouais. Et je rajoute aussi que à titre d'exemple les douaniers seront autorisés à fouiller. Dans votre iPod, dans votre téléphone portable, pour voir si vous ne transportez pas avec vous de la musique type yaké.
T'imagines, toi ? T'imagines l'attente où...
Ouais.
Mais c'est inimaginable.
Ouais.
C'est inimaginable. Voilà, qu'est-ce qu'on pouvait... Ce que l'on pouvait dire sur ACTA... Allez, on va s'échapper un peu de ces lois liberticides pour rentrer un peu plus dans la technique. C'est Alain qui nous a concocté une petite dégeek à la sauce DNS. Ça tombe bien, j'ai un contrôle de réseau mercredi.
C'est vrai ?
Ouais, c'est vrai.
Mais je pense pas que ce soit le DNS qui va t'aider sur ton contrôle de réseau.
Non.
T'as bien vérifié, t'as bien révisé ton binaire ?
Oui, j'ai bien révisé mon binaire. Bon, je sais faire mon binaire et mon hexadécimal.
Très bien. Alors tout devrait bien se passer.
Pardon, la dégeek, c'est parti. La dégeekalisation aujourd'hui, comme je l'ai dit précédemment, s'occupe de vous rafraîchir la mémoire avec le DNS, Domain Name System. Mon cher Alain, c'est à toi.
C'est parti. Alors DNS, donc comme tu viens de le dire Ghislain, pour Domain Name System, en français système de nom de domaine, c'est le protocole, c'est un des protocoles les plus importants d'Internet actuellement en tout cas, qui sert à transformer l'adresse Internet d'un site web en adresse IP. Parce que en effet, les ordinateurs, eux, ils savent pas traiter les mots directement, ils ont besoin de chiffres et d'adresses IP, plus exactement concernant les adresses qui sont sur le réseau internet. Et donc ils se servent de ces adresses IP là pour contacter les machines distantes. Ils se servent pas directement du nom du site web. Donc le protocole DNS, c'est ce protocole qui sert à transformer le nom, par exemple, enflulibre.tuxfamily.org en une adresse IP que l'ordinateur saura reconnaître et saura router sur internet. Le fait de transformer donc une adresse web en adresse IP est appelé une résolution DNS. Et techniquement d'ailleurs, on ne parle pas d'adresse ou de nom de domaine. On parle en tout cas techniquement de FQDN pour Fully Qualified Domain Name. Domain name, pardon, en français nom de domaine pleinement qualifié. Alors par exemple, TuxFamily est un nom de domaine. Enflulibre.tuxfamily.org est un FQDN. Alors on verra plus tard pourquoi est-ce qu'on rajoute un point à la fin. Et donc enflulibre.tuxfamily.org est le FQDN qui renvoie directement vers la machine qui héberge le site web d'Enflulibre. On peut ensuite avoir par exemple ftp.tuxfamily.org qui lui redirigerait vers une autre machine. Donc pourquoi
t'as parlé du point, ouais, justement,
pourquoi est-ce qu'on utilise un point? C'est parce qu'il y a dans le monde, il faut savoir qu'il y a des milliers, je ne sais pas combien il peut y en avoir exactement, mais des milliers de serveurs DNS. Et il y a surtout 13 serveurs DNS racines qui sont éparpillés un petit peu partout dans le monde. Ces serveurs reçoivent quelque chose comme environ 15 000 requêtes par seconde. Donc ce sont des machines assez robustes. Ce qu'il y a, c'est que ces serveurs ne connaissent pas tous les noms de domaine qui existent dans le monde. Par contre, ce qu'ils savent, eux, c'est qui gère les TLD. Les TLD, pour les top level domaines, ce sont les domaines de premier niveau comme .fr, .net, .com, .org et compagnie. Ce sont donc les domaines de premier niveau. Donc, votre application de résolution DNS qui est installée sur votre ordinateur, parce que oui, vous en avez une, même si vous ne le savez pas, elle sait, pour pouvoir trouver enfluxlibre.tuxfamily.org, elle va interroger premièrement un des serveurs racines. Donc elle va lui demander bonjour serveur racine, je voudrais savoir où se trouve enfluxlibre.tuxfamily.org. Le serveur racine va lui répondre, bah écoute, enfluxlibre.tuxfamily.org, je connais pas. Par contre, je connais, je sais qui c'est qui gère le tld.org. Ah bon, d'accord, ok. Donc il renvoie l'adresse IP du serveur DNS qui s'occupe de .org. Ensuite, votre machine va aller voir ce nouveau serveur DNS qui s'occupe de .org et va lui demander « Bonjour, je voudrais savoir où se trouve enfluxlibre.tuxfamily.org ». Et elle va lui dire « enfluxlibre.tuxfamily.org, je ne connais pas. Par contre, je sais quel est le serveur DNS qui s'occupe de tuxfamily.org ». Donc on vous renvoie vers ce nouveau serveur DNS, on vous renvoie cette nouvelle adresse IP. Vous allez interroger le serveur DNS qui s'occupe de enfluxlibre.tuxfamily.org. Vous allez lui demander encore une nouvelle fois, bonjour, je voudrais savoir où se trouve enfluxlibre.tuxfamily.org. Et il va vous répondre, eh bien, enfluxlibre.tuxfamily.org se trouve à l'adresse, par exemple, 212.227.213.192. Et à partir de là, seulement, votre ordinateur va pouvoir envoyer une requête HTTP vers cette adresse IP-là. Et c'est là qu'il va pouvoir recevoir donc les paquets HTTP pour pouvoir afficher la page web. Donc, comme on le voit, c'est une étape qui peut sembler comme ça assez longue puisqu'il faut interroger plusieurs serveurs. On a l'habitude d'utiliser Internet hein, maintenant, on a beau taper enfluxlibre.tuxfamily.org, la réponse se fait quand même vachement rapidement. Donc, ça se passe en quelques fractions de secondes. Et donc, pour revenir sur ce point comme ça qu'on met à la fin d'un FQDN, c'est le domaine principal Internet qui renvoie donc vers les serveurs DNS racines. Donc c'est là qu'on voit que ces serveurs DNS racines-là sont extrêmement importants dans le réseau Internet actuel, puisque s'ils sont amenés à tomber, ou si, mettons, plus de la moitié d'entre eux sont amenés à tomber, derrière les autres serveurs seront surchargés, ils vont tomber, et puis à partir de là, on n'aura plus Internet. Enfin si, en fait, on aura toujours Internet puisqu'on pourra contacter directement, on peut toujours contacter les serveurs directement par leur adresse IP.
Oui, voilà. Le problème, c'est qu'on ne connaît pas non plus l'adresse IP.
On ne connaît pas les adresses IP de tout le monde.
De tout le monde, oui.
C'est ça. Et l'autre souci, c'est que si je tape http://212.227.213.192,
qui est très long,
déjà, hein, faut
déjà y aller.
Une fois que vous êtes arrivé sur la page web, il n'y a aucun des liens sur cette page qui fonctionnera. Il faudra encore connaître à chaque fois les adresses IP de tous les liens qui sont sur cette page web. Donc en gros, Internet serait, en tout cas, Internet serait complètement paralysé si ces serveurs-là étaient amenés à tomber. Donc il y a des recherches qui sont faites et il y a également des logiciels qui existent pour utiliser le protocole DNS en peer-to-peer pour éviter que ce soit aussi centralisé que ça. C'est pas encore pleinement fonctionnel, c'est pas encore énormément utilisé. Peut-être que ça se développera un jour, on verra. Je sais pas trop où ça en est exactement, mais en tout cas pour l'instant c'est pas très très développé. C'est là qu'on voit d'ailleurs, et c'est là que je vais parler un petit peu de Mega Upload.
Fallait que tu nous places un jour.
C'est juste à titre d'exemple. Mega Upload.com, qui est géré par un des serveurs DNS qui se trouve aux États-Unis, pas un serveur racine, hein, mais je crois que c'est Verizon qui gérait le domaine de Mega Upload. Donc, quand le FBI a voulu couper Mega Upload, avant même de couper physiquement les serveurs et de saisir les serveurs, ils sont allés voir Verizon et puis ils leur ont dit, vous coupez le domaine megaupload.com. Et puis voilà, à partir de là.
En gros, le site d'accès est toujours là. Mais on a coupé le pont, quoi.
Voilà, on a coupé le pont. On a coupé toute la résolution DNS, megaupload.com. Alors, d'accord. De suite après, quasiment, les serveurs ont été saisis et ils ont été coupés physiquement. Donc, même par les adresses IP, on ne peut plus y accéder. On voit que si ACTA passe notamment, pour stopper un site, ce sera très facile. Il suffit d'aller voir les gens qui s'occupent des DNS et de leur dire ce truc-là, vous le coupez. Et puis voilà, c'est fini, quoi.
Et en quelques secondes, on met à genoux, en fait, tout simplement un site internet.
Voilà, on coupe tout.
Je voulais revenir justement à cette notion de chemin, dire bonjour, est-ce que vous connaissez TuxFamily, enfin en tout cas en Fluvi.TuxFamily, voilà, tout ce que tu as fait tout à l'heure. Ce sera un peu l'équivalent d'un hyperroute ou d'un traceur sur donc Linux ou Windows.
Non, c'est pas pareil.
Non, c'est pas pareil.
Puisque là, c'est pas du routage.
D'accord.
Voilà, TraceRT fait du routage, lui, par exemple, sur Linux. Alors, TraceRT, c'est. C'est un. Hein,
c'est TraceRT sur.
Sur Windows, pardon, Windows et TraceRoute sous Linux.
TraceRoute sous Linux, ouais.
Autant pour moi. Je vais me prendre des claques, là. Alors, TraceRoute sert à repérer quel est le chemin pris par les paquets pour rejoindre un serveur.
D'accord.
Par quel routeur on passe. Donc, rapidement, je vais en profiter pour expliquer comment ça marche parce que c'est assez intéressant. C'est directement dans le protocole TCP que c'est implémenté, dans les paquets TCP. Les paquets TCP ont ce qu'on appelle un TTL, Time to Live. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont le droit de traverser un maximum de routeurs avant d'être détruits. Donc, si je mets un TTL à 25, une fois que mon paquet aura traversé 25 routeurs, il sera détruit. Et si d'ici là, il n'est pas arrivé à mon site web, je n'arriverai pas à contacter mon site web. Donc, TraceRT, ce qu'il fait, c'est qu'il envoie une commande ping vers une destination précise. Par exemple, si je fais un traceroute en flux libre.tuxfamily.org, il va envoyer un premier paquet avec un time to live de 1. Donc, premier routeur rencontré, le paquet est détruit. Et à ce moment-là, vu que le paquet est détruit, le routeur envoie un message vers l'ordinateur pour lui dire le paquet a été détruit. On reçoit dans ce cas-là, on reçoit dans le paquet l'adresse IP du routeur. TraceRoute nous montre quelle est l'adresse IP de ce routeur. Et derrière, TraceRoute renvoie un ping vers ce même site avec un time to live de 2. Il traverse le premier routeur, il arrive au deuxième routeur, boum, le paquet est détruit, on reçoit le message avec l'adresse IP du nouveau routeur. Et comme ça, petit à petit, il fait son chemin, time to live de 3, 4, 5, 6, jusqu'à ce qu'on arrive à destination. Et ainsi, on peut tracer la route utilisée par nos paquets pour atteindre notre site web. Voilà pour ce petit encart.
Eh ben, vous m'en ferez une copie de 2 heures. je pense que ça c'est clair. La leçon d'aujourd'hui, c'était un peu comment on fait pour faire tomber un site internet de manière super simple. Surtout s'il n'y a que 13 serveurs DNS racines dans le monde.
Mm-hmm. Ils sont extrêmement solides. Hein.
Ouais.
Alors
ils sont contrôlés. Juste une question par rapport à ça. Ils sont contrôlés par des organismes. Tu parlais de Verizon tout à l'heure.
Oui, mais ça c'est pas un des serveurs racines.
Hein. Ouais. D'accord.
Verizon c'est pas pour les serveurs racines.
Verizon, ils sont contrôlés par qui exactement?
Verizon gère le .com.
Ah, d'accord.
Voilà. Okay. Ils sont contrôlés par des organismes indépendants, donc il n'y a pas de risque qu'ils soient saisis. Il y a déjà eu des attaques DDoS sur les serveurs racines.
Le fameux déni de service.
Voilà. Les attaques DDoS ont échoué. Hein.
D'accord.
Voilà, c'est extrêmement robuste. Ouais. Et par exemple, le serveur K, puisque les serveurs s'appellent, donc il y en a 13, ça va de A à M, je crois, donc A.server-route.net, B.server-route.net, jusqu'à M.server-route.net. Et le serveur K, par exemple, il est distribué sur plus de 200 000 serveurs en Amérique du Sud. Donc, pour faire tomber ces 200 000 serveurs-là, va falloir y aller quand même. Hein. Et le serveur K, lui, je crois que c'est 20 000 requêtes à la seconde. Voilà.
Effectivement. Ça fait quand même un
sacré
paquet.
Bonne partie sur DNS. J'espère que j'ai été assez clair parce que moi, c'est une partie que, enfin, en tout cas, moi, la partie réseau comme ça, c'est vraiment quelque chose que j'adore. Donc, j'espère que.
Tu travailles dedans en même temps.
Voilà. Donc, j'espère que j'ai été assez clair sur le protocole DNS. Et puis, si c'est pas le cas,
moindre question,
n'hésitez commentaire. Pas à laisser des commentaires
sur
afin
en flux libre.
Sur enfluli.xfamily.org.
Non, sur 212. Je rebondis très vite sur ce que tu dis.
Je vois ça,
donc
je vois
sur 212.227.213.192 qui est notre nouveau site internet. N'importe quoi. Merci Alain pour ce point DNS, mais tu
You're
sais,
welcome.
Il faudrait que pour la digitalisation, on fasse des petites séries comme ça sur des choses un peu plus terre à terre finalement. Je
mais
pense
oui,
que
oui,
ça aiderait.
Ouais.
Je me demande si dans deux semaines, on ferait pas une petite chose sur une adresse IP. Ou... Non, j'ai encore mieux. T'as parlé
tout.
De DNS.
Ouais.
On parlera du modèle du modèle OSI.
Du modèle OSI.
Ouais,
pourquoi pas.
Ça va être plus
très bien.
Plus
c'est
parlant,
bien, ça.
Je pense aux gens.
C'est
et
bien
puis
OSI.
Je pense que les gens vont.
Ouais.
Voilà. Comme j'ai maintenant les connaissances sur ce modèle-là, je pense que je pourrais m'en occuper. Sinon, je te demanderai au grand maître Alain. C'est alors la suite de nos aventures dans Flux Libre, c'est la sélection. On va parler d'un peu tout et pas forcément de n'importe quoi. En tout cas, je l'espère. La séluction en Flux Libre. La séluction. C'est
la
pas
séluction.
Mal. La séluction, oui.
D'accord.
La sélinuction.
Je fais du néologisme
oui,
maintenant.
J'adore.
C'est bien.
La sélection en Flux Libre. C'est parti. Alors, dans la sélection, aujourd'hui, dans notre petite besace, conférence, la quadrature du net, c'était
j'ai
jeudi
planté.
2 février. T'as planté, en direct comme ça. Mais
j'ai planté en direct.
C'est quoi, c'est E17 qui a planté?
E17
faut expliquer
qui a planté,
les choses, les amis, c'est que mon cher Alain a décidé de se faire une Arch Linux sous mes conseils la semaine dernière. Oh, tu te ferais bien une petite Arch Linux? Oh ouais, tiens, pourquoi pas. Il s'est fait une petite Arch Linux, il s'est mis un fantastique bureau E17, en fait, qui est un autre desktop environnement que GNOME, KDE, XFCE, LXDE, on en reparlera un jour, je pense, si on fait un sujet dessus. Et donc, il vient de planter en beauté. Qu'est-ce que tu viens de planter? Et un serveur X, n'importe
X-org.
Quoi.
C'est bon, c'est reparti.
Oh, bah c'est en plus le même X, quoi. Xorg, un petit start X, et puis voilà.
Voilà, exactement.
Voilà.
Moi, je relance tout. Hein.
Oui, oui, vas-y, relance tout. Le temps que tu relances tout, je signale juste que si vous entendez une excellente qualité de son, c'est qu'on a changé un peu notre matériel, nos logiciels, et on est... comment vous dire? Nous n'étions pas complètement libres. Et il y a même de la musique, dis donc. Comment ça se fait?
D'où ça vient?
C'est de la musique japonaise. Il vient de se faire attaquer. Oh, c'est une attaque des DOS en fait, pour te dire. We are Anonymous. We are Legion.
Qu'est-ce que c'est que ce délire?
Heureusement que ce qu'on enregistre ne passe pas par ton PC. Hein, j'aurais
ouais,
peur.
Ouais, c'est clair. Ouais.
Heureusement que mon PC est plus costaud. Hein. Je tiens d'ailleurs à signaler, puisque nous y sommes en ce moment, les chats, les chans IRC d'Actux, d'Arch Linux, de Linux FR et de Tango Studio. Je les signale tous et je vous dis tous bonjour, parce que je vois qu'il y a pas mal de discussions. D'ailleurs, sur Arch Linux, c'est assez marrant, je viens de voir un gros troll entre Windows et un gars qui voulait revenir sous Windows et un gars qui restait sous Arch Linux, donc... C'était assez marrant. Franchement, oui, d'ailleurs, Windows 7 n'est pas si mal, je confirme. Voilà le genre de troll qu'on peut trouver dans nos communautés respectives. Alors Alain avait juste un cassage de Xorg.
Cassé Xorg, je suis sidéré.
Tu sais que je l'ai cassé cette semaine, je n'ai fraîchement installé ma Arch, j'avais installé mes drivers tout au départ propriétaire, sans passer par la case libre, parce que ayant une ATI, bah, malheureusement j'ai des petits problèmes de ventilo et de sortie audio HDMI, même si je crois que c'est réglé, mais j'ai pas encore retesté. Je branche ma prise HDMI. Je vais pour configurer mon téléviseur, donc mon téléviseur en grand format, 1920 par je sais plus combien,
1080,
1080 et puis PC de portable coupé, là, boum.
Aïe.
Là, franchement, ça fait mal. Et là, on bénit Windows de tout son cœur. Allez hop. Alors après ce tacle monstrueux de ma part, là à mon avis toute la communauté du libre va m'en vouloir jusqu'à la fin de leur vie. Ne vous inquiétez pas messieurs, je suis avec vous. La sélection en flux libre avec la conférence de Jérémy Zimmermann pour la quadrature du net le 2 février 2012 à Rennes. Les manifestations européennes contre l'ACTA le 11 février 2012 et le PAC Liberté. Je signale juste que Sabayon 8 est sorti.
Oui, aussi.
Voilà, avec 4.7.4. Voilà, tester. On mettra le lien. Mettra le lien directement. Et je te laisse commencer. Je te laisse parler, tout simplement, puisque en
la
gros,
conférence.
T'as parlé surtout de la conférence et puis des manifestations. Allez, c'est parti. À toi.
La conférence de Jérémy Zimmermann. Donc, Jérémy Zimmermann, qui est cofondateur et porte-parole de la Quadrature du Net. Il est venu jeudi 2 février à Rennes, donc pour parler des libertés sur Internet globalement et puis plus particulièrement d'ACTA. Moi j'en ai profité pour emmener trois amis avec moi qui n'étaient pas trop au courant de ce genre de sujet-là, qui ne sont pas du tout investis dans le libre. Ils sont ressortis gonflés à bloc. Certains sont même venus avec moi à la manif hier. Donc pour dire comme quoi un bon petit Jérémy Zimmermann de temps en temps
ça fait pas de mal
pour remotiver les troupes ça fait pas de mal
ça
en
fait
effet
pas de mal du tout
c'est clair c'était une conférence super intéressante donc on était censé avoir je crois une heure de conférence suivie d'une demi-heure de questions ça a duré je crois 2h30 en tout on a eu 1h10 de 1h10 de conférence et puis quasiment 3/4 d'heure, 1 heure de questions derrière. Jérémy Zimmermann a commencé par se présenter, expliquer un petit peu d'où il venait, qu'il était un hacker dans le sens noble du terme, c'est-à-dire que c'est un monsieur qui a toujours aimé démonter les objets pour voir comment ça marche à l'intérieur et tout ça. Et puis derrière, il nous a parlé... il nous a parlé d'ACTA, il nous a parlé un petit peu d'Adopi, il nous a parlé de surtout d'ACTA, surtout sur la fin de la conférence, et puis aussi il nous a vendu un petit peu le bouquin d'un de ses amis de la Quadrature du Net qui vient d'écrire un livre en anglais qui démonte point par point les arguments des gens de la culture et qui explique pourquoi c'est bien de pouvoir partager de la musique ou des films de manière non marchande. C'est ça qui est important, de manière non marchande, partager de la musique et des films sur Internet directement. Donc la conférence est disponible en podcast sur le site des Champs Libres et sur le site de la cantine numérique rennaise, donc on mettra les liens sur le site d'Enflux Libre, comme ça vous pourrez l'écouter. Je vous conseille vraiment de l'écouter, c'est vraiment super intéressant, et derrière les questions posées par les gens qui étaient là dans le public sont assez intéressantes aussi. Il y en a qui soulèvent des points dont il n'avait pas parlé. Donc voilà, une très bonne conférence et j'espère qu'il y en aura d'autres comme ça. Par exemple, j'aimerais bien que Benjamin Bayard vienne nous faire une petite conférence un jour à Rennes. Donc pour ceux qui ne savent pas, Benjamin Bayard, c'est le président de FDN. FDN pour French Data Network, c'est le plus vieux fournisseur d'accès à Internet français.
Ça, on le sait pas.
Encore
sait pas assez,
en existence. Ouais. C'est un fournisseur d'accès à Internet associatif. Voilà, il faut aussi faire un petit peu la promotion de ces gens-là.
Le gros blanc. Qu'est-ce qu'il fallait que je dise à la fin? C'est bien mon petit Alain. Non, j'avais une anecdote qui me revenait en tête. Je mettrai le lien parce que je trouve que c'est un documentaire super intéressant. Il y a une association de Bourgogne qui avait fait un documentaire spécialement justement sur les libertés de copier, les libertés de partage, ce genre de choses-là. C'était un documentaire libre. Et donc, ce documentaire, justement, on y voyait Jérémy Zimmerman. Et ce cher Jérémy nous a donné, nous a prouvé par A plus B. Alors, vous voyez tous que quand vous mettez un DVD dans votre lecteur DVD, vous voyez pirater, c'est du vol, tatati, tatata. Bon. Alors, il a expliqué très clairement que, effectivement, pirater, c'était peut-être voler. Mais quand on dit voler, on regarde voler dans la loi française, c'est soustraire un objet à quiconque. Voilà.
Frauduleusement.
Frauduleusement, de préférence. Sinon, c'est pas voler. Le seul souci, c'est que quand je vais avoir un fichier, que je vais le dupliquer plusieurs fois, on fait ce qu'on appelle une multiplication finalement. Donc un fichier 1 peut devenir 1 million, 1 milliard selon le nombre de fois où il a été dupliqué. Et le piratage, qu'on appelle donc le piratage, c'est dupliquer une source plusieurs fois. Donc ça voudrait dire que la multiplication, c'est une soustraction.
Exactement.
Et que l'eau, c'est du vin.
Voilà, c'est ça.
Une Renault, c'est une Ferrari. Voilà. Donc, c'est pour ça, cet homme-là, il est très intelligent. J'aurais bien aimé le rencontrer parce que je pense que j'avais pas mal de questions à lui poser. Et j'espère qu'un jour, en tout cas avec les nouvelles connexions que Alain nous a nous a faites pendant les deux derniers mois, je pense qu'un jour on sera à même de pouvoir rencontrer tous ces grands acteurs de du libre, de la alors maintenant en plus du libre, de la neutralité du net, parce que c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. Hein, c'est pour ça d'ailleurs qu'on a complètement changé la baseline de cette émission, même si elle reste complètement la même que celle des autres fois. Voilà, on a voulu mettre l'accent sur la neutralité du net, les libertés informatiques, parce que ça soit au niveau matériel, logiciel, et c'est ce qu'on a le plus parlé aujourd'hui, ici en tout cas, logiciel, donc les logiciels libres, GNU Linux, BSD et autres, malgré le fait qu'on parle de ça, il est très important de s'attaquer à tout ce qui pourrait nous entraver en termes de liberté, et les libertés informatiques regroupent tout cela. Et voilà, c'était mon petit mot que je voulais dire. Et ensuite, mon cher Alain, une fois que tu as été faire la conférence, tu as été chez Actux. Chez
oui, je suis allé voir
oui,
Actux.
Ça y est, nous ne sommes plus fâchés avec les associations. En fait, on n'était pas fâchés du tout, ils ne nous connaissaient pas. C'est pour ça que tu as été chez Actux. Et après...
Je suis allé les voir, donc ouais, jeudi
ouais.
Alors Actux... Ils font un apéro du libre tous les premiers jeudis du mois à Rennes, au Golden, Golden Gate Café, rue Saint-Georges à Rennes.
Juste Actux, c'est une des deux grosses associations qui existent donc sur notre région à nous en Bretagne et donc plus particulièrement à Rennes. Voilà. Parce qu'évidemment en Bretagne il y en a d'autres, hein, mais à Rennes voilà, on a deux associations, on a Gulliver et Actux.
Voilà, c'est ça. Donc je suis allé les voir, des gens très sympathiques ma foi, très investis également. Ils faisaient partie de ceux qui organisaient la conférence avec la conférence de Jérémy Zimmerman d'ailleurs. Je les ai accompagnés notamment hier samedi pour samedi 11 février pour la manifestation anti-ACTA à Rennes. On était quelque chose comme 300 ou 350 personnes, c'est pas énorme, mais on a pu faire un petit peu de bruit quand même et puis expliquer aux gens ce qu'était ACTA, parce que ce qu'on se rend compte quand on marche dans la rue comme ça et qu'on s'arrête pour discuter avec les gens, c'est que les gens viennent nous voir, ils voient les panneaux « non à ACTA » en grand devant le cortège, et puis ils viennent nous voir et « mais c'est quoi ACTA ?»
Voilà. C'est ça le problème.
C'est ça qui est
ce que je relevais tout à l'heure, c'est que c'est ce que je disais dans une toute petite phrase. Personne ne sait qu'est-ce que c'est exactement. Voilà. C'est que ça a été fait derrière notre.
C'est même pas. Ils savent pas ce que c'est exactement. C'est que ils en ont jamais
entendu
parler.
Voilà. Voilà. Alors si ils en ont entendu parler plus ou moins, mais dans d'autres contextes avec SOPA.
Le fameux SOPA, je suis même pas sûr que les
gens. Ça fait du bruit le mois dernier,
ça a
été jusqu'aux journaux télévisés quand même.
Ouais, je sais pas, j'ai pas.
Ah ouais, si, j'ai bien suivi le truc, j'avais pas internet au moment-là. Donc j'ai bien suivi le truc, je peux te dire que ça causait, hein, ça
d'accord,
causait sévère.
D'accord, ok. Donc, on a manifesté pendant, on va dire, 1h30, 2h peut-être, quelque chose comme ça. Il y a eu donc, pour ceux qui ne sont pas au courant, c'était une mobilisation mondiale contre ACTA ce samedi 11 février. Il y a eu des manifestations un petit peu partout en Europe, je crois aussi aux États-Unis, mais je ne sais pas s'il y a eu une grande portée là-bas. Dans les pays d'Europe de l'Est, il y a eu une très très forte mobilisation. En Allemagne aussi également, il y a eu beaucoup de monde.
Le parti pirate est quand même bien plus implanté qu'en France, parce qu'ils ont quelques sièges Bundes. Je sais plus comment ça s'appelle.
Bundestag.
Bonjour les Allemands.
Donc il y a eu pas mal de monde dans les pays de l'Est et en Allemagne, plusieurs milliers de personnes. Et puis en France, c'est quoi? C'est 1000 ou 1500 à Paris. Et puis quelques centaines, parfois même pas une centaine dans certaines villes. Mais bon, je pense que ça a quand même un peu participé à faire prendre conscience aux gens qu'il y a un souci qui arrive là et qu'il faut s'en occuper.
Oui, il faut s'en occuper très rapidement
tout
même.
Fait. Et il y a des associations qui peuvent nous aider à s'occuper de ça.
Tout à fait.
Et ces associations ont lancé...
Le pack Liberté. Le pack Liberté, c'est nettoyer l'internet, parce que l'internet est sale. Le pack Liberté, hein, c'est ni plus ni moins qu'en fait une donation vers trois associations, j'en ai parlé tout à l'heure. La Quadrature du Net, Framasoft et l'April. Donc ils sont trois grosses associations françaises dont l'un s'occupe de la neutralité du net, l'autre de faire de la promotion de logiciels libres en multiplateforme, que vous soyez sous Windows, ouais. Mac,
ça, c'est pour Framasoft.
Et le dernier, l'April, s'occupe de promouvoir tout court en fait le logiciel libre,
voilà.
À travers des actions, qu'elles soient politiques, qu'elles soient même politiques, hein, finalement, parce que je sais qu'il y avait eu des pétitions de lancer, notamment dans les dernières élections. C'était quoi les dernières élections? C'était le régional ou... Oui, je crois que c'était régional. Donc, ces trois associations se sont réunies pour faire ce pack Liberté. Vous donnez tout simplement une somme répartie entre les trois associations et... je pense que ça vous fait du bien. C'était quoi ton sentiment? Moi, je l'ai pas encore fait, mais je vais pas tarder. Hein. Je vais pas tarder. C'est un truc. Comment tu t'es senti après?
Ah, comment je me suis senti après? Bah, je me suis dit, j'ai fait
une bonne action.
J'ai fait mon devoir.
Ah ouais.
Bon. Voilà, tout simplement. Puis j'avais envie de, j'avais envie de donner. Je me suis connecté. J'ai partagé équitablement mon don entre tous les
associations,
entre toutes les assos. Et puis voilà, j'ai validé. Et puis j'étais content.
Et t'es reparti après, c'est ça?
Okay. Voilà, j'ai fermé l'onglet et puis je suis allé voir des chatons sur YouTube.
Ah d'accord. Tu as une image sur LinuxFR, une vidéo. Et ben voilà, je pense que c'est sur ces bonnes paroles de chatons libérés que nous avons...
sauvons les chatons.
Sauvons les chatons, oui. Le site du Pack Liberté, packliberté.org.
Oui.
Et puis sinon, vous tapez la Quadrature du Net, Framasoft ou l'April dans votre moteur de recherche personnalisé. Voilà. Vous allez y retrouver très très vite. Je vous recommande...
Les liens seront sur le site d'Enflux Libre,
de toute façon. Je vous recommande très chaudement la lecture de la Quadrature du Net, parce que ils parleront d'ACTA peut-être de meilleure façon que j'ai pu vous l'expliquer tout à l'heure, ou en tout cas ils vous expliqueront les plus gros enjeux, des plus gros enjeux que nous à notre niveau, ça nous dépasse un peu. Voilà. Je pense que nos causeries sont terminées.
En flux libre, c'est fini.
Oui, en flux libre, c'est fini. Nous allons fermer nos micros et puis nous allons nous coucher, peut-être pas cette heure-ci.
Non.
Nous allons.
On revient quand?
On revient dans le monde en 2 semaines. Hein. Mais
oui, d'accord.
Qu'est-ce que j'ai envie de faire des émissions tous les dimanches maintenant? Ça me manquait.
Moi aussi, j'aimerais bien, mais j'ai pas le temps.
Ouais, moi non plus, j'ai pas le temps. Moi, avant, je vais m'installer une petite arche avec AEX là.
Voilà.
Pour me la péter un peu. Puis je vais essayer de kicker mon Windows de mon PC.
C'est beau, 17.
Oh, tu languis dessus. En parlant de distribution, je remercie tout particulièrement Tango Studio. J'en ai parlé tout de suite quand j'ai évoqué IRC. Tango Studio, qui quoi S, c'est une distribution MAO, musique assistée par ordinateur, basée sur Ubuntu 10.04.4. C'est la prochaine qui va arriver. Une distribution MAO dont j'ai le plaisir de contribuer et de collaborer. Je salue notamment Joff qui est le mainteneur de la distribution. Son travail est certainement immense, car pour faire une distribution de cette Akabi qui a permis à certains utilisateurs de se libérer d'Ubuntu Studio, qui est juste une catastrophe, je peux vous dire que c'était déjà quelque chose. Merci donc à cette communauté. Donc je les cite tous plus ou moins. Il y a Joff, il y a DAXZ, il y a moi-même, donc Redscape, il y a ORL, il y a FD Mysterious, il y a Isa, donc voilà, petit coucou à vous tous. Et pour ceux que ça intéresse, nous sommes sur IRC, Dièse Tango Studio, pour tous nous retrouver. L'intégralité de cette émission a été effectuée sur du logiciel libre, sur une distribution GNU Linux Tango Studio et sur Qtractor pour les connaisseurs, relié à Jack. Je peux vous dire que ça fait plaisir que tout ça marche enfin, parce qu'Audacity, je commençais un peu à en avoir ma claque.
Ouais. Surtout, moi je m'occupe pas de la technique, donc ça va.
Tu savais sous quel système on enregistrait avant ? On préfère pas le dire. Sourire gêné de Alain. En tout cas, merci à vous tous de nous avoir attendus. Je salue tout particulièrement Ticia, une vraie groupie. Hein.
Oui.
Hein. Salut Ticia.
C'est motivant en tout cas. Oui,
c'est motivant en tout cas, c'est super sympa. À Ronan également.
N'oublions pas qu'il faut monter l'émission pour mercredi pour elle, oui, parce qu'elle est en vacances. Elle aimerait bien l'écouter dans le train.
Oui, promis Ticia, je te monte l'émission. Dès qu'on a fini l'émission, je m'en occupe. Non, j'ai dit que j'installais Arche. J'installerai Arche.
Tu montes et après tu
installes. Non, j'installerai Arche avant.
Il est têtu.
Je suis têtu. Et merci beaucoup à vous tous. On se retrouve dans 2 semaines pour nos aventures libristes et libertaires. Voilà, tu vois, je sais, j'arrive même plus à trouver les adjectifs. Tous les commentaires en fully.tuxfamily.org et nos différentes communautés. Aldevar est présent sur le chat de... Tu es présent où toi ? Sur Linux.fr, je crois.
Linux.fr, Arch-Linux-fr et Actux.
Voilà. Et Actux. Et moi, je suis présent sur Actux, Arch-Linux, Linux.fr et Tango Studio. Donc, voilà. Il y a moyen de tous nous retrouver.
Le tout sur le serveur hier. C'est de Freenode.
Exactement. Et en plus, c'est super simple. Merci à vous tous. Et je vous souhaite... En tout cas, pendant toutes ces 2 semaines, de réfléchir bien profondément à tout ce que l'on a dit, parce que croyez-moi, la bataille ne fait que commencer. Salut Alain.
C'est bien dit ça, Gislain. Ouais, salut Gislain, à bientôt. Salut.